le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Je vous parlais la semaine dernière du langage inclusif, et peut-être que vous avez vu passer aux infos la nouvelle, il y a le petit Robert qui a ajouté le pronom « yel » à son dictionnaire. Donc je le rappelle, « yel », c'est un néologisme de pronom qui se veut être un pronom neutre à la troisième personne du singulier et du pluriel. Et d'après les chercheurs et les chercheuses du Robert, c'est un pronom qui est de plus en plus utilisé par la population française, et c'est la raison pour laquelle il a pris la décision, conformément à l'usage réel qui en est fait, d'intégrer ce mot à son dictionnaire. Alors on a eu pas mal de réactions de la part de plusieurs hommes et femmes politiques, et je vais pas citer les avis parce que il s'agit ni de linguistes ni de scientifiques qui sont experts dans leur domaine, et c'est pas le cas non plus de l'Académie française, donc je vais pas m'étaler là-dessus, mais je trouve quand même intéressant de voir autant de réactions face à un pronom qui a uniquement pour but idéologique de base de faire reculer la hiérarchie entre les genres, surtout aux alentours de la date du 25 novembre, qui était la journée mondiale contre les violences faites aux femmes. On le sait, partout dans le monde, les femmes sont encore victimes de violences, aussi bien physiques que sociales, et je vous invite, si vous le souhaitez, à vous rendre sur le site d'Amnesty International pour signer les nombreuses pétitions qui concernent ces violences. Le collectif féministe Nous Toutes a lancé un appel à manifester pour la journée du 25 novembre, donc la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Samedi 20 novembre ont donc eu lieu une soixantaine de manifestations partout en France. Les revendications sont claires, dire stop aux violences sexistes et sexuelles et exiger des politiques publiques à la hauteur contre ce fléau. À Paris, la manifestation est partie à 14h de la place de la République. Elle a continué jusqu'à Nation où elle a commencé à se disperser vers 17h. D'après les organisatrices, il y avait 50 000 participantes et participants. Et la préfecture de police en a compté 18 000. C'est quand même beaucoup moins qu'en 2019 où la manifestation avait attiré 100 000 personnes, d'après les organisatrices, et 35 000 selon la préfecture de police. Et bien sûr, celle de 2020 avait été annulée à cause du Covid. Les militantes et les militants sont venus crier leur colère dans le but d'interpeller les candidats et candidates à l'élection présidentielle et ainsi dénoncer le décalage entre le discours des pouvoirs publics et la réalité, explique Marie-Lie Breuil du collectif Nous Toutes au journal Le Monde. Selon elle, les moyens mis en œuvre par les gouvernements contre les violences faites aux femmes et les féminicides sont dérisoires, malgré les progrès qui ont été enregistrés depuis le Grenelle organisé à la fin de 2019. Le collectif Nous Toutes rappelle qu'environ 220 000 femmes sont victimes de violences tous les ans et 94 000 sont violées chaque année en France. Et surtout, on a un compteur qui est assez désespérant. Depuis le 1er janvier, 101 femmes ont été tuées par leur conjoint, compagnon ou ex. C'est le collectif féminicide qui compte ça chaque année. Et chaque année, c'est assez difficile de voir ce compteur avancer de plus en plus. En 2020, c'était 102 féminicides qui avaient été recensés et 146 en 2019 selon le ministère de l'Intérieur. Les organisations féministes estiment que l'État ne consacre pas assez de budget à la lutte. L'État consacre 360 millions d'euros à cette lutte tous les ans. Et ces organisations estiment qu'ils devraient donner plus de moyens et donc consacrer 1 milliard d'euros par an à cette cause, s'agissant ici de la vie de nombreuses Françaises, dont la pire issue est finalement la mort. On parle d'un budget pour la prévention, l'éducation et la sécurité. Il faut apprendre aux plus jeunes ce qu'est le consentement et que tous les collégiens ou lycéens passe un brevet d'éducation à la non-violence sur le même modèle que celui de la sécurité routière, explique Madame Breuil du collectif Nous Toutes. Ce budget permettrait également de créer plus de places d'hébergement pour les femmes qui fuient leur conjoint violent. Il faut savoir que dans ce genre de situation, il y a environ 40% des femmes, des victimes, qui ne se voient proposer aucune solution d'hébergement, et donc ce sont des femmes qui sont en danger chez elles et qui trouvent le courage de fuir, mais qui finalement se retrouvent à la rue, et il y a seulement 12% de ces victimes qui obtiennent une place adaptée avec un accompagnement juridique et psychologique, selon un rapport qui a été publié jeudi par la Fondation des Femmes. Et c'est quand même un argument politique qu'on va retrouver dans certains discours de certains candidats. Par exemple, le candidat vert à la présidentielle, Yannick Jadot, qui dit, je cite, « Ce n'est plus possible de tolérer cette violence sur la moitié de l'humanité. » Il était d'ailleurs présent dans le cortège parisien et pour lui, je cite, « Il faut des informations. Il faut des formations, des moyens pour les hébergements d'urgence. » Il y a d'autres candidats à la présidentielle qui étaient également présents et présentes. Il y a Anne Hidalgo du Parti Socialiste, Philippe Poutou du Nouveau Parti Anticapitaliste et les comédiennes Sandrine Bonner et Muriel Robin. Dans le cadre de la manifestation de Paris, ça s'est un petit peu plus élargi quand même, puisque il y avait des gens aussi qui étaient là pour dénoncer l'inceste, les violences pédocriminelles ou subies par les enfants dans le cadre conjugal. C'est précisé par les organisateurs et les organisatrices qui attendaient la présence de la comédienne et réalisatrice Andrea Bescon, autrice de Chatouille. Et François Deveau qui se bat contre la pédocriminalité dans l'Église catholique. Alors ces violences qui sont subies par les femmes dans le cadre conjugal ou familial, au niveau sexuel également, c'est finalement l'aboutissement violent d'une société qui, encore aujourd'hui, hiérarchise les genres. La plupart d'entre nous ont d'ailleurs intégré certains stéréotypes comme étant une réalité normale contre laquelle il est impossible et surtout inutile de lutter. Par exemple, en France, les femmes représentent environ 30% des élèves dans les filières scientifiques contre 74% dans les études littéraires. Les femmes sont surreprésentées dans les professions relatives à l'administration, aux soins infirmiers, au social et à l'aide à la personne. Et de l'autre côté, dans les secteurs de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'énergie et de la construction, c'est souvent décrit comme étant des métiers masculins et les femmes y sont vraiment sous-représentées. En fait, on voit qu'il y a un gros manque de mixité dans les filières et dans les carrières en général. Même si on regarde une cour d'école, souvent vous allez voir au centre le terrain de foot avec les garçons qui jouent au ballon et autour, il y aura les filles qui jouent elles de leur côté. Je grossis un petit peu le trait, mais l'idée c'est quand même de constater qu'il existe des stéréotypes associés à chaque genre et que ces stéréotypes, ils sont présents dès l'enfance, ce qui est bien sûr assez déterminant pour le reste de la vie. Cet ensemble de stéréotypes de genre, on peut appeler ça du sexisme assimilé. C'est un ensemble de stéréotypes de genre qui, de fait, sont sexistes puisqu'ils créent de la différence entre les hommes et les femmes, ce qui engendre de la discrimination. Même non intentionnel d'ailleurs. Donc c'est un ensemble de stéréotypes de genre qui sont parfaitement intégrés à notre esprit et qui du coup nous apparaissent tout à fait normaux et donc banals. Et ce sont ces stéréotypes et ces croyances qui finissent par creuser les inégalités entre les genres et parfois ça mène à la violence qui est disons la forme la plus aboutie de cette violence sociale. Je vais donner plusieurs exemples pour que ce phénomène vous apparaisse plus clair, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sexisme assimilé, ça vient du fait qu'on opère une différence de traitement selon le genre de la personne, et ce, partout dans la vie sociale. Par exemple, dans les histoires pour enfants, où les hommes et les femmes ont souvent des rôles stéréotypés, même si c'est de moins en moins le cas. Il y a aussi dans les manuels scolaires, où on va apprendre l'histoire des grands hommes politiques français, on apprend l'histoire des rois de France, et on oublie qu'il existe de nombreuses femmes politiques qui ont influencé leur histoire au moins autant que les rois de France. Dans les jouets pour enfants aussi, là c'est bientôt Noël, et vous allez rentrer dans un magasin, vous allez voir un côté fille tout rose avec des poupées et des dinettes, et un côté bleu avec des action man et des pistolets à eau. Et j'exagère à peine, même les pistolets à eau, en général, s'ils sont destinés aux filles, vous allez voir des petites fleurs dessus et ils vont être roses. Dans les pubs aussi, c'est assez visible, il y a des marques qui utilisent des stéréotypes de genre en permanence. Par exemple, je cite « Seulement 4 mots peuvent donner le sourire aux femmes. Je t'aime et solde. » Et ça peut aller jusque sur les serviettes pour bébé, par exemple, où on va écrire « Belle comme maman et fort comme papa ». Ça, c'est des stéréotypes de genre. Vraiment, dès l'enfance, en fait, on va séparer, on différencie les deux genres et ensuite, c'est partout. Et ça structure finalement notre société sans même qu'on le remarque. Nous, on ne le remarque plus et c'est ça le plus dangereux. Si vous voulez voir plus d'exemples, d'ailleurs, je vous conseille le site Pépites Sexistes. C'est un site qui montre pas mal d'exemples de sexisme uniquement dans le marketing. Mais le plus flagrant, c'est la couleur des rayons des jouets pour enfants. Et ce serait bien quand même qu'en 2021, les enfants puissent choisir leurs jouets indépendamment de leur genre et de la couleur qui est attachée. Et en parlant de choisir, ce serait bien aussi qu'ils et elles puissent choisir leur métier sans être influencés par le sexisme assimilé. Parce que comme j'ai dit, on voit que les femmes sont surreprésentées dans les métiers de la santé ou de l'administration. Par contre, il n'y a personne dans les secteurs du transport, de l'énergie, de la construction, etc. Et il y a une distinction qui se fait déjà à l'école entre les filières scientifiques et littéraires. Eh bien, ces choix de carrière et de filière sont directement influencés par les enseignants et les enseignantes, et c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Donc pour faire simple, l'effet Pygmalion, c'est en fait les attentes de l'enseignant ou de l'enseignante influencent énormément les élèves. Par exemple, si on pense que l'élève va échouer, l'élève va finir par se conformer à cette attente précise. On appelle ça aussi les prophéties autoréalisatrices, et on peut résumer ça en une phrase: nos actions envers les autres ont un effet sur les croyances des autres sur nous, ce qui génère les actions des autres sur nous, et ces actions renforcent nos croyances sur nous et influencent à leur tour nos actions envers les autres. Donc par exemple, un ou une enseignante qui d'une certaine manière croit que les filles sont plutôt faites pour les filières littéraires, va les pousser à entrer dans ce type de filière. Donc une majorité des filles va effectivement y rentrer, ça va donc renforcer la croyance selon laquelle les filles sont faites pour la filière littéraire, et donc justifier l'action de pousser les filles vers le littéraire. C'est un cercle vicieux qui pourtant peut avoir des effets très positifs, mais le problème c'est qu'on observe un comportement différent des enseignants et des enseignantes suivant qu'il s'agisse d'élèves filles ou garçons. Un exemple qui semble anodin, on va souvent exiger plus des filles en mathématiques, parce qu'on a un peu ce stéréotype que les filles sont nulles en maths, donc on va être un peu plus exigeant pour qu'elles y arrivent mieux. Mais au final, on voit l'effet inverse de ce qui est escompté, c'est-à-dire que l'estime de soi est plus ou moins entachée, puisqu'en face, on attend toujours mieux que ce qui a été réalisé. Alors finalement, pourquoi faire l'effort, puisque la société considère de toute façon que c'est une difficulté qui est normale pour une fille d'être nulle en maths. Et voilà, du coup, on se retrouve avec plus de garçons en maths et en sciences que de filles. Et le fait même qu'il n'y ait pas beaucoup d'homogénéité dans les filières, ça alimente le stéréotype. Et même pour les élèves, quand on voit qu'il y a plein de filles dans une filière et qu'on a un garçon, on se dit « c'est pas fait pour moi ». Et l'inverse est aussi vrai, évidemment. Ce genre de stéréotype de genre est vraiment présent partout et de plus en plus dans notre société. Dès le début de la vie d'ailleurs, les parents ne traitent pas l'enfant de la même manière qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon. Par exemple, on ne va pas décorer de la chambre de la même façon, on ne va même pas parler de la même manière, selon certaines études, à son enfant, à son bébé. Et ces différences de traitement ne seraient pas tant un problème en soi si elles n'aboutissaient pas, in fine, à des différenciations discriminantes plus tard dans la vie. Finalement, on arrive à une violence sociale déterminée par le sexisme assimilé qui conduit à ce qu'on appelle du sexisme ordinaire, c'est-à-dire des actions concrètes de discrimination qu'on ne remarque plus du tout. Donc ça va se traduire par exemple par un temps de parole moindre des femmes dans les médias, dans la politique aussi, on coupe plus facilement la parole aux femmes qu'aux hommes, selon certaines études en linguistique conversationnelle. Et dans les métiers qui ne sont soi-disant pas faits pour les femmes, on va être plus exigeant envers les femmes qui s'y aventurent. Et même au niveau des droits, les femmes sont encore aujourd'hui moins payées que les hommes à poste égal, les congés parentaux sont différents, la garde parentale est souvent attribuée aux femmes, etc., etc. Toute cette violence sociale, c'est ce que les collectifs féministes français tentent de dénoncer et surtout de combattre, notamment à l'occasion du 25 novembre, Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Cet événement a rassemblé d'ailleurs de nombreuses personnes à Montpellier aussi. Les collectifs et associations, nous toutes, Oser le féminisme, le mouvement d'Uni, il y en a beaucoup, ont organisé des événements jeudi soir pour rendre hommage aux femmes qui sont décédées sous les coups de leur mari. Il y a une veillée qui a été organisée à l'Arc de Triomphe. On retrouve également le 26 novembre l'association Oser le féminisme au Gazette Café à 18h pour un café féministe intitulé « Putain de violence » portant sur le système prostitutionnel avec une exposition de sculptures réalisée par Melissa Rollinger. Et le 27 novembre, il y a le village féministe sur le thème des violences, place du Nombre d'Or, de 14h à 17h, où plein d'associations sont présentes. Donc vous pouvez participer à cette lutte en vous renseignant sur ces associations. Donc il y a Oser le féminisme qui a organisé tous ces événements. Le mouvement d'Uni, c'est une association de lutte contre la prostitution. Et il y en a énormément à Montpellier. Que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux aussi. De la même manière, vous pouvez vous-même agir au quotidien contre les violences sociales que génère le sexisme en prenant conscience tout simplement des stéréotypes de genre que vous avez et qui, d'une certaine manière, participent à la violence sociale dont les femmes sont victimes en France. On a quand même de la chance que dans notre pays, ces violences sont moindres que dans d'autres pays, hein, évidemment, où les lois sont très très dures envers les femmes. Certes, mais c'est pas une raison pour rien faire, pour améliorer les choses. On peut toujours faire mieux pour les droits humains en général, de toute manière. Et d'ailleurs, pour ces pays où c'est bien pire qu'en France, je vous invite encore une fois à aller sur le site d'Amnesty International, amnestyinternational.fr, pour signer les pétitions qui sont en rapport avec le sujet. Et je précise, avant de vous dire au revoir, que si vous connaissez des femmes qui sont victimes de violences conjugales ou autres, ou que vous en soupçonnez juste, c'est nécessaire d'en parler, quitte à se tromper. Hein. Si vous observez des interactions qui vous semblent suspectes, eh ben, il faut agir. Vous pouvez appeler le 3919, qui est le numéro d'urgence des violences conjugales. Vous pouvez parler à la personne concernée. Vous pouvez alerter les associations que j'ai citées. Bref, vous pouvez vraiment agir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Et je vous dis à bientôt sur Radio FM+.